Merci Seigneur Jésus pour ce beau dimanche. Merci mon Dieu de nous donner, de bien comprendre ta parole ce matin. Merci Seigneur de permettre que nous soyons toujours fidèles à ta parole et fidèles à toute cette lumière que tu nous as donnée, que nous puissions continuer toujours à marcher en étant sérieux avec nos engagements vis-à-vis de tes ordonnances et de tous tes commandements. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. On va faire un chant. Et puis ensuite, je vous apporterai la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons, très cher?
Sur la route, un chant d'olivier.
Sur la route, un chant d'olivier. Alors, on y va sur la route avec Olivier. Olivier, merci Stéphane, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous prions pour notre sœur Michèle, pour qu'elle ait des bonnes nouvelles demain matin, enfin demain, que tout se passe bien. Amen.
Non,
c'est lundi. Ah oui, c'est pas demain. Mais c'est demain lundi. C'est demain. Voilà. Gloire à Dieu. Que vous ayez des bonnes nouvelles. Matthieu, chapitre 5, verset 8. C'est la suite du message que je vous ai apporté vendredi soir au sujet de la miséricorde. Matthieu 5, et verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. J'ai commencé à vous parler de la pureté du cœur. Et je vous ai dit que si Dieu cessait d'être miséricordieux, il cesserait immédiatement d'être Dieu. Alors, ça a soulevé des questions, mais c'est simple à comprendre. Dieu signifie objet d'adoration. Si Dieu cessait d'être miséricordieux, nous serions tous perdus et il n'aurait plus d'adorateur. C'est clair ? C'est clair. Et je vous disais que il en va de même pour nous, ses enfants. Envers qui Dieu notre Père est-il miséricordieux ? Envers les pécheurs. Envers qui nous, les enfants de Dieu, les enfants du Père céleste, devons-nous être miséricordieux ? Eh bien, envers les pécheurs. Facile d'aimer quelqu'un qui dort, facile d'aimer quelqu'un qui ne fait pas de problème. Hein, on n'a pas besoin d'être miséricordieux avec les marmottes qui dorment tout le temps, avec ceux qui font rien. Quand on ne fait rien, on ne risque pas de faire une bêtise. Hein. Mais aussitôt que ça se réveille et ça commence à faire des bêtises, alors évidemment, il faut user de miséricorde et c'est ce que notre Dieu nous demande de faire. Si nous ne sommes pas miséricordieux, nous cessons d'être des fils et des filles de Dieu et nous montrons là notre vrai cœur, c'est-à-dire un cœur dur. Attention, quand l'homme est venu vers Jésus et lui a dit « Je sais que tu es un homme dur qui exige de récolter là où il n'a pas semé », Jésus n'a pas dit « Non, je ne suis pas dur ». Il y a quand même une certaine fermeté en Dieu, d'accord ? Il y a une fermeté. S'il y a une fermeté en Dieu, il doit y aussi avoir une fermeté dans les enfants de Dieu. Et en particulier, une fermeté de la part de celui qui est berger de l'Église. Il ne peut pas être un mollasson qui passe toutes les choses et qui laisse les loups entrer en leur disant « Soyez les bienvenus, je suis miséricordieux, allez-y bouffer les brebis !» Ça ne tient pas. Donc, il doit y avoir une certaine fermeté. Vendredi, c'est une sainte fermeté. Ça n'a rien à voir avec la dureté du cœur de celui qui n'est pas miséricordieux. D'accord ? Vendredi, je développais tout ça pour vous dire que nous devons être tel qu'il est. Hein, c'est ce qui est écrit dans Jean, dans la lettre de Jean. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais être tel qu'il est, c'est être miséricordieux aussi. Et je vous disais que sans cette miséricorde, nous ne verrons jamais Dieu, parce qu'en effet, ce sont ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Et si vous n'êtes pas miséricordieux, vous n'avez pas le cœur pur, vous avez le cœur dur. Ce ne sont pas les gens au cœur souillé par le péché, par la suspicion, par le manque de confiance en l'autre. Ceux-là, ils ont besoin de la miséricorde du Père et ils ont besoin de la miséricorde des fils de Dieu que nous sommes, parce que c'est à nous que revient de pardonner ou non les péchés. Jean 20, 23. C'est dans l'ordre établi. Donc, une personne qui n'a pas un cœur pur ne peut pas prétendre, n'est-ce pas, être en communion avec Dieu. Une personne qui n'est pas miséricordieuse ne peut pas prétendre être en communion avec Dieu. Elle peut être juste à l'extrême, mais ne pas être miséricordieuse. Alors, je vous disais que dimanche, donc aujourd'hui, je vous parlerai au sujet de ce que signifie voir Dieu. Parce que Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». S'il est écrit dans la Bible qu'il est apparu aux patriarches, aux prophètes, bon, il est apparu de dos à Moïse. Moïse l'a vu de dos. Jérémie l'a vu son doigt. Voilà. Bon. Mais bon. Mais en tout cas, il leur a parlé et c'est parce qu'il voulait présenter aux terriens les vérités du monde spirituel. Voilà pourquoi Dieu, la Bible nous dit que Dieu est apparu. Il fallait que les terriens aient accès à ces vérités. Et ces vérités, elles dépassent tellement les capacités ordinaires de la compréhension humaine que cela demande de l'humilité, parce qu'on a tendance à penser que, voilà, on sait tout. Hein. Mes frères et sœurs, ce qui est péché ne peut pas comprendre l'immensité. Ce qui est limité ne peut pas comprendre ce qui est l'illimité. L'illimité. Oh là là, c'est dur à dire. Ce qui est limité ne peut pas comprendre l'infini, voilà. J'ai trouvé un synonyme. C'est plus facile. On ne peut pas. Alors, quand est-ce que nous comprendrons vraiment? La réponse, elle se trouve dans 1 Corinthiens 13:13. 1 Corinthiens 13:13. Je vous le lis. Aujourd'hui, c'est Paul qui écrit, hein, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, parce que les miroirs à l'époque, ce n'étaient pas les miroirs d'aujourd'hui. Hein, c'est comme les lampes à pétrole et nos ampoules électriques. Il y a une grande différence. Hein. Je vous parlais de lampes à pétrole vendredi, je vous parlais d'électricité, je vous parle aujourd'hui de miroirs d'aujourd'hui, les miroirs de hier. Les miroirs du temps de Jésus, ce n'était pas ça. Hein, ce n'était pas comme aujourd'hui. On voyait d'une façon peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Ah, aujourd'hui, c'est Paul qui parle, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Vous voyez l'humilité de l'apôtre Paul. L'humilité de l'apôtre Paul. Quelque chose aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Paul écrivait cela, lui qui avait de telles révélations, je veux dire, c'était des révélations phénoménal à l'époque, parce que, bon, maintenant, nous avons l'habitude de lire l'apôtre Paul, mais c'était révolutionnaire à l'époque. C'était pas « Le Seigneur me révèle que les concombres rue Quincampoix sont moins chers que les concombres rue de la Boétie hein, », comme vous avez des chrétiens qui ont aujourd'hui cette sorte de révélation. Dieu leur parle sans arrêt pour leur dire des âneries pareilles, il ferait mieux de se taire. Enfin, je crois que c'est pas Dieu qui devrait se taire, parce que c'est pas Dieu qui parle, c'est eux, c'est ceux qui pensent que Dieu leur parle, qu'ils devraient se taire. Paul avait des révélations phénoménales. Il avait quand même cette humilité, il reconnaissait qu'il voyait de manière peu claire. En vérité, aujourd'hui, au XXIe siècle, en toute humilité, nous en savons plus que lui. Je me rappelle de mon ami Bill William, qui était directeur du collège biblique à Bruxelles. Ça s'appelait le CBS, je crois, je ne sais plus, c'était un collège pentecôtiste, pardon, CBC plutôt, le collège biblique américain là-bas, des Assemblées de Dieu. Il me disait, l'apôtre Paul, il ne serait même pas reçu au concours pour pouvoir entrer comme étudiant ici. Parce que, bon, ben, déjà, premièrement, il ne connaissait pas l'histoire de l'Église. Deuxièmement, il ne connaissait pas l'Apocalypse, il n'était pas encore écrit. Et puis, il y avait beaucoup d'autres livres qu'il ne connaissait pas. Et qui nous ouvre les yeux sur l'Évangile éternel aujourd'hui, tel que Paul ne le connaissait pas. Alors, soyons humbles. Si Paul dit qu'il voyait de manière peu claire, nous ne nous vantons pas de voir de manière parfaite, n'est-ce pas? Soyons humbles. Nous connaîtrons tout quand nous aurons fusionné avec lui. Mais pour le moment, nous nous approchons de plus en plus de la véritable connaissance de Dieu et nous nous en approchons. La révélation est progressive, nous nous en approchons. Déjà, nous sommes nés de nouveau, c'est un miracle, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. En fait, par la nouvelle naissance, nous sommes devenus des créatures nouvelles, différentes des mortels qui sont sur cette terre, en fait. Nous sommes un peu comme, nous avons été transformés, nous sommes de la même composition que lui, si vous voulez. Nous sommes comme une goutte d'eau qui est séparée de l'océan, mais qui est de la même nature. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons la même composition de ce qui forme l'océan, mais nous ne pouvons pas prétendre connaître l'océan. Ce n'est que lorsque la goutte d'eau retournera à l'océan qu'elle deviendra elle-même l'océan, partie de l'océan. Et en devenant cette partie de l'océan, elle connaîtra comme elle a été connue. Voilà ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, en quelque sorte. Arrêtons de nous prendre, n'est-ce pas, pour des gens qui connaissent Dieu, qui entendent Dieu. Même Moïse, ce n'est pas Dieu directement qui lui a donné les paroles de la loi. Ce n'est pas l'intermédiaire d'anges. Ces gens qui entendent Dieu leur parler tout le temps, c'est psychiatrique. Et ce que nous faisons, nous, ici-bas, c'est de nous approcher de l'océan. C'est de nous approcher de Dieu. La Bible nous dit dans Actes 17, 28 que nous sommes de sa race. Nous sommes de sa race. Mais nous sommes encore séparés de lui pour un temps. Nous sommes séparés par la chair et le sang. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, les corps sont différents, ils sont faits de chair et d'os. Vous vous souvenez de ça? Mais, bien que séparés, nous avons la possibilité de nous approcher de lui par notre foi, avec humilité, par notre comportement, par notre progression en sainteté, par notre amour manifesté, par notre amour... j'aime beaucoup cet amour. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais je m'inquiète pas de toi, comment tu vas, ta santé, tout ça. Non, je t'aime de l'amour du Seigneur, mais... En un an et demi, tu peux crever sur ton lit de maladie, je ne vais te voir que deux fois quand j'ai vraiment besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle de l'amour manifesté. Je ne vous parle pas de ceux qui parlent d'amour, je vous parle de ceux qui font l'amour, qui manifestent l'amour. C'est autre chose. Dieu ne cesse de tendre la main aux terriens sans arrêt. Et nous, qu'est-ce que nous faisons d'autre? Nous faisons la même chose. Et les terriens rejettent Dieu parce qu'ils n'aiment pas la lumière, parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et ils nous rejettent pour les mêmes raisons. Mais, en fait, peu importe qu'ils ne nous reçoivent pas, c'est pas grave. Par notre nature, par la composition dont nous sommes faits depuis que nous sommes nés de nouveau, cette composition, cette nouvelle nature nous pousse à aller vers eux et à être miséricordieux. Et pour arriver là, eh bien, nous devons nous fondre en lui, nous perdre en lui, renoncer à nous-mêmes, à notre orgueil qui nous dit « Non, t'en as assez fait, ça suffit maintenant, t'as été assez miséricordieux, ça va maintenant, ça suffit. » Non, Dieu est miséricordieux à toujours. Vous vous rappelez le psaume? C'est le psaume 136, je crois, je ne sais plus. On en parlait hier soir. C'est aussi ça, donner sa vie, c'est... renoncer à notre fierté, renoncer au fait que, bon, on a déjà été miséricordieux une fois, deux fois, trois fois, dix fois, cent fois. Il faut l'être encore, chaque jour. Alors, on me reprochait de ne pas pardonner les frères, mais je pardonne chaque jour. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'oublie. S'il y a un frère qui suit une femme mariée comme un chien-chien, je le pardonne, je l'exhorte, mais s'il recommence, je le reprends encore, et encore, et encore, et encore. Et si c'est ma femme qu'il suit, je lui fous mon poing dans la gueule avec amour, parce que ça ne se fait pas. Il y en a, ils sont tellement miséricordieux qu'ils acceptent n'importe quoi. C'est plus de la miséricorde, c'est de l'inconscience. Vous voyez qu'il faut être équilibré. Nous devons prendre modèle sur Jésus, qui a été haï sans cause. C'est lui qui le dit. Il a été haï sans cause. Mais si on écoute ceux qui le haïssaient, ils ne disaient pas « Nous le haïssons sans cause ». Ils disaient « Nous ne le haïssons pas sans cause ». Ce n'est pas vrai, c'est un blasphémateur. Il détourne la gloire de Dieu sur lui-même. Il est en train de favoriser dans le peuple le culte de sa propre personnalité. Les gens qui l'écoutent sont des idolâtres. Vous voyez? Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Voilà pourquoi il faut qu'il meure. C'est un démon. Et puis regardez, colère qui pique. Vous avez vu la colère qu'il a piquée dans le temple, mais piquer une colère comme ça dans la maison de Dieu, mais c'est vraiment le signe de la possession. Et Jésus disait, il me haïssent sans cause. Qui disait la vérité ?
Jésus,
c'est Jésus, bien sûr que c'est Jésus qui disait la vérité. Mais ses adversaires, eux, étaient certains d'avoir raison. Pourquoi ? Parce que leur lumière était ténèbre, ce que je vous disais vendredi. Pleine de suie, comme je vous le disais vendredi. Comme la lampe à pétrole, le tube, il se remplit d'espèces de fumée, de suie. Il faut nettoyer souvent, tous les jours. Dieu était en face d'eux, en face de ces gens. Dans la chair, Dieu était en face d'eux, mais ils ne le voyaient pas. Pouvez-vous comprendre ça? Ils voyaient des miracles, ils entendaient parler de miracles. Ils connaissaient l'histoire, mais ça n'avait aucune importance à leurs yeux. C'est quand même inouï. Nous sommes de nouvelles créatures et nous avons été purifiés par le sang de Jésus, nous le croyons, et nous avons le pouvoir de pardonner, et ce pouvoir nous purifie, mes frères et sœurs. Car si nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont fait du mal, notre lumière devient comme la leur. Alors nous travaillons avec crainte et tremblement à notre salut en pardonnant ceux qui nous offensent. Chaque jour. Et ça nous purifie de l'amertume, ça nous purifie de la colère, ça nous purifie des sentiments d'injustice. Vous voyez, se purifier est toujours la condition essentielle. Et pour que cela soit plus clair, je vais vous donner une image.
Vous aimez les petites images?
Est-ce que vous avez déjà vu du mercure? Les plus vieux d'entre nous ont connu le mercure parce qu'à l'époque, quand j'étais gamin, on avait des thermomètres avec du mercure dedans. Et puis, ça arrivait que des fois, on casse le thermomètre. Alors, le mercure se répandait. Je vois que les frères anciens rigolent, ils s'amusaient avec ça. Moi, je me suis amusé avec ça. Et alors, on éparpillait le mercure sur une petite plaque en verre. Et puis, ça faisait des petites boules. Vous vous rappelez? Ça faisait des petites boules. Et puis, si vous rapprochiez les petites boules les unes des autres, eh bien, de nouveau, elles s'unissaient pour ne former qu'une grosse goutte de mercure. Vous vous souvenez de ça? C'était rigolo. Il n'y avait pas... on ne voyait plus qu'une grosse boule. Il n'y avait plus... Mais, si sur une de ces petites gouttes, il y avait quelques grains de poussière, vous pouviez faire ce que vous vouliez. Quoi que vous fassiez pour la réunir avec les autres, elle restait séparée. Est-ce que vous avez déjà fait cette expérience? C'est exactement ce qui se passe avec ceux qui refusent notre miséricorde, avec ceux qui refusent nos paroles et sur qui nous sommes obligés de secouer la poussière de nos pieds. C'est-à-dire qu'ils ont déjà de la poussière, ils ont de la suie, et en plus on rajoute notre poussière, ils ne sont pas gâtés, hein. Jésus est splendeur, Jésus est lumière, Jésus est immensité, et ce n'est que quand nous aurons enlevé les couches d'impureté accumulées en nous que nous parviendrons à fusionner avec lui. Et ça, c'est bon pour tout le monde. Et donc, nous pourrons fusionner avec lui jusqu'à le voir au sens où Jésus l'entend. Jésus, homme, voyait Dieu, le Père, parce qu'il était réellement fondu dans le Père. Jésus, homme, était le seul homme sur terre à contempler le Père, parce qu'il faisait un avec lui. Et ça, c'est pas de la théologie. Par contre, le mode d'emploi pratique et théologique pour s'approcher de cet état, c'est d'être miséricordieux. C'est d'être miséricordieux. C'est de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Alors, des manifestations de la présence de Dieu, j'en ai vu depuis 68, j'en ai vu. C'est inouï. Je me demande si Il y a beaucoup d'hommes et de femmes en France qu'on a vu à ce point-là, mais c'est quelque chose, ça défie l'imagination. Des miracles dans la nature, de la nourriture multipliée, des tempêtes calmées, des tournées, des yeux d'aveugles s'ouvrir et voir, des sourds entendre. J'ai contemplé des manifestations de sa présence dans la nature, dans la force de l'orage. J'ai vécu un tremblement de terre, j'ai vu la force de Dieu dans la nature, j'ai entendu sa voix, mais vraiment entendu. Et même je l'ai entendu une fois, et il y avait des personnes qui étaient avec moi qui l'ont entendu aussi. Plusieurs des anciens de la communauté peuvent rendre témoignage de cela. Ils m'appelaient par mon propre nom, mon prénom plus exactement, par mon propre prénom. Des gens peuvent témoigner de ça, des gens qui sont encore vivants, des manifestations de la présence de Dieu, j'en ai connu. Mais on ne peut pas voir l'auteur de ces manifestations, parce que c'est impossible. Par contre, nous pouvons voir ses envoyés, ses représentants, ses anges. Un ange, c'est un esprit qui va prendre une forme humaine pour nous atteindre. Il va prendre une forme, une dimension, il va prendre des limites dans l'espace et le temps. Dieu le Père, lui, il est venu dans la chair une fois en Jésus-Christ, et c'est suffisant en ce qui le concerne. En faisant cela, il est venu tout accomplir pour nous. Maintenant, c'est à nous d'agir avec foi, avec amour, avec espérance, avec bonté, avec miséricorde, avec patience. Et nous pouvons voir, ce que nous pouvons voir, ce sont des images du Dieu invisible. Déjà, quand Jésus était sur la terre, il était lui-même l'image du Dieu invisible. Il n'était pas directement même Dieu lui-même. C'était l'image du Dieu invisible. Mais nous pouvons voir Dieu dans 1000 choses, 10 000 choses. Combien de fois j'ai vu la manifestation de Dieu dans la générosité d'un homme, d'une femme? Combien de fois j'ai vu la manifestation de Dieu dans le geste de bonté de quelqu'un que je ne connaissais pas, dans le courage de mon épouse, dans une œuvre musicale? On voit les manifestations de Dieu dans la nature. Et plus nous purifions notre cœur, plus nous distinguons les traces de Dieu. Frères et sœurs, que celui qui veut voir Dieu commence à s'élever au-dessus des préjugés et au-dessus de ses partis pris. Que celui qui veut voir Dieu, qu'il apprenne à regarder les autres et les choses comme des verres, disons, comme au travers de verres incolores. C'est-à-dire, ce sera déjà beaucoup. Les cœurs purs sont des verres incolores. On peut dire, on peut donner cette définition. Incolore comme le verre d'une lampe à pétrole qui a été bien nettoyée de sa suie. Jésus nous parle de notre œil en disant qu'il est la lampe de notre corps. Et il dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Pensez à la personne qui vous casse le plus les pieds maintenant. Est-ce que vous voyez cette personne pure? Ah, il y en a qui se raclent la gorge. Savez-vous pourquoi dans l'œil, il y a une partie de l'œil qu'on appelle le cristallin? Le cristallin, c'est ni marron, ni vert, ni bleu, ni jaune. C'est cristallin, c'est-à-dire que c'est pur, c'est d'une pure transparence. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas voir le monde autour de nous tel qu'il est vraiment. Tous ces gens qui vous font des problèmes, qui me font des problèmes, sont envoyés par Dieu pour faire ces problèmes afin que nous puissions grandir. Vous voyez? On devrait presque les remercier. Le cristallin n'a aucune couleur, il est transparent. Alors, quel rapport y a-t-il entre le cœur et l'œil? Eh bien, il se produit pour le cœur le même phénomène que pour le cristallin. Une accommodation est sans cesse nécessaire. Une accommodation. Vous comprenez le mot? Il faut s'accommoder. Si le cristallin est trop plat ou trop bombé, on voit mal. Si le cœur est trop plat, ou si le cœur bombe le torse, qu'il est orgueilleux, il voit mal aussi. Quand on n'aime pas, on a des raisons souvent de ne pas aimer. Eh bien, on ne voit pas les qualités des autres. Quand on aime, on se rappelle que, ah oui, Christ est mort pour cette personne. Le sang de Jésus a été versé pour un tel. Je peux le voir pur au travers du sang de Jésus. Et les problèmes qu'il me crée sont des petits trucs passagers, des détails dont on ne se souviendra plus dans 10 siècles, même avant, hein, même avant le jour au mois de mai, on ne se souviendra plus. Celui qui n'aime pas, il ne voit pas la beauté de la nature. Il se plaint sans arrêt. Il fait trop beau, il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut, gna 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 gna. Et non seulement il ne les voit pas, mais il n'arrête pas de critiquer les gens, les choses et tout ça. Et même il cherche à corriger le Créateur. Tous ces gens disent que c'est mal fait. Moi, je me rappelle, on avait des voisins d'arbistes chez nous en Suisse. Ils habitaient la ferme à côté de notre villa. Et un jour, on était chez eux, on buvait le thé. Puis je ne sais pas pourquoi, en parlant, je dis « Oh, c'est mal fait ». Et puis la vieille dame d'arbistes m'a dit « On ne dit jamais c'est mal fait, parce que c'est Dieu qui fait les choses. Il n'y a rien qui se fait si Dieu ne permet que cela se fasse. Alors, il ne faut pas dire c'est mal fait. Oh, » vous voyez, je devais avoir 10-12 ans. Je n'étais pas encore converti, mais je m'en souviens encore de ce que cette vieille dame m'avait dit. Et je me rappelle, elle s'appelait Alice Bornand. Elle doit être décédée maintenant. Alice Bornand. Ah, si j'étais à la place de Dieu, eh ben, je ferais les choses mieux que c'est fait, hein, en tout cas, moi. Eh ben, une telle attitude déplorable ne permettra pas d'entrer dans le royaume des mystères de Dieu. Parce que contrairement à ce qu'ils pensent, Dieu a créé et gère le monde des vivants et des morts d'une façon infiniment sage, belle et miséricordieuse. La véritable vision n'est donnée qu'à celui qui a mis la pureté au centre de son travail psychique, c'est-à-dire de son âme, de son cœur. Voilà ce que doivent comprendre les gens, et en particulier les chrétiens. De plus en plus de gens, aujourd'hui, se disent clairvoyants, et les gens vont les consulter, les écouter. Je me rappelle, on était avec Marc Croza dans une conférence en Afrique, et j'étais l'orateur principal, n'est-ce pas? Et puis, il y avait quelques, mille personnes, peut-être un peu plus. C'était dans une immense patinoire. Et puis, il y avait tout le long, sur le côté, il y avait une file de gens. Ils faisaient la queue pour aller dans une petite porte. Et derrière cette petite porte, il y avait une prophétesse qui était là. Et Marc me disait, mais ils vont voir quoi, là? Ils vont voir Madame Irma ou quoi? Ben, c'est un petit peu ça. Ils vont voir Madame Irma. Est-ce que je vais voyager cette année? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je vais réussir dans les affaires? C'est la même chose. Mais la plupart de ces Madame Irma, je ne parle pas de la Madame Irma de là-bas, elle était honnête celle-là. Mais la plupart ne sont pas honnêtes, et ne sont pas rigoureux non plus. Ils refusent d'être sous le contrôle. Par exemple, cette femme qui était là-bas et qui avait été invitée par Abraham Gadji, c'était une femme qui était sous le contrôle de l'Église. Et elle ne se permettait pas de dire n'importe quelle ânerie. Elle avait été mise à l'épreuve par l'Église. Mais vous avez aujourd'hui des pasteurs autoproclamés qui ne rendent compte à personne, qui ne connaissent personne d'autre qu'eux-mêmes et leurs trois plaies, quatre tendus qui les écoutent, et ils n'ont pas la rigueur. Et puis les gens qui les écoutent, ils sont souvent naïfs, très naïfs. Alors combien d'aveugles conduisent ainsi d'autres aveugles? Ils vont tous tomber dans le fossé. Quel fossé? Le fossé de la psychiatrie, du malheur, de l'échec et de la perdition finalement. La perdition familiale, la perdition financière, la perdition, puis finalement peut-être même l'enfer, on va savoir, s'ils ne se repentent pas. Il ne faut pas se leurrer, mes frères et sœurs. Les terriens et même les chrétiens nés de nouveau ne captent de l'invisible, je répète, même les chrétiens ne captent de l'invisible que les réalités correspondantes au niveau de conscience qu'ils ont eux-mêmes atteint. On ne peut pas aller au-delà. Et c'est pour cela que les soi-disant clairvoyants ne voient que, vous avez remarqué, des accidents, des catastrophes, des maladies, le bord du gouffre, des catastrophes qui se préparent, et des démons par-ci, par-là. Vous leur dites que vous avez vu un ange. Ah non, 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 ils croient que c'est un démon. Ils voient le mal. Pourquoi? Parce que c'est selon leur nature, selon la suie qui est sur le verre de leur lampe. Vous parlez de n'importe quoi qui se passe dans le monde. C'est les Illuminati. C'est les francs-maçons qui sont là derrière. C'est toujours, n'est-ce pas, une société secrète, n'est-ce pas? Et on est manipulé. Ils voient le mal parce qu'eux-mêmes sont à ce niveau. Qu'est-ce que voit une personne qui a un cœur pur? Elle voit Dieu. C'est-à-dire, elle voit la plénitude des qualités, elle voit la plénitude des vertus, elle voit de bas en haut, parce qu'elle est humble, elle voit de bas en haut la beauté de la science, de la beauté de la beauté, de l'amour, de la lumière, de la force. Elle se réjouit de la clémence, de la générosité, elle voit la stabilité, elle contemple la sagesse, elle contemple la toute-puissance, elle contemple le fondement, la base, le réceptacle, la synthèse, elle contemple Dieu. Et c'est bien que ces choses-là doivent arriver, mais elle relève sa tête, elle n'est pas en train de crier à la fin du monde, et attention, la trompinette va sonner, tu, j'ai un peu pointu, c'est moi que je suis la trompette, et attention, à moi tout seul, je suis l'épouse. Vous vous rappelez, on en a eu un comme ça chez nous qui disait, à moi tout seul, je suis l'épouse. Il allait loin, il disait, à moi tout seul, je suis l'épouse, c'est pour ça que je suis homosexuel. Non mais... Vous voyez où ça va se loger. C'était effarant. Et on retrouve ces esprits religieux bizarres comme ça. Et même dans la souffrance, celui qui a le cœur pur, il reconnaît Dieu sur son chemin, dans sa souffrance, dans sa peine, il reconnaît Dieu. Il sait, il croit que toute chose concourt à son bien, parce qu'il se sait aimé de Dieu, parce qu'il se sait en Dieu, parce qu'il se sait appelé selon le dessein parfait de Dieu. Et il se met ainsi à lui ressembler de plus en plus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est qu'en arrivant à dissoudre toutes les couches opaques qui sont en eux, qu'ils ont réussi à libérer le passage de la lumière céleste. La lumière est en vous. Christ est en vous. Mais vous avez aussi des sentiments qui ne sont pas très nobles et qui noircissent votre cristallin. Et quand la lumière céleste se manifeste dans une personne, elle réveille toutes les facultés de cette personne. Et elle accomplit des merveilles naturelles et surnaturelles, pas seulement naturelles. S'il n'y a que du naturel, méfiez-vous. Jésus n'accomplissait pas que du naturel. En ouvrant en nous un passage à la lumière, la pureté nous donne de voir Dieu dans toute la création et dans tout ce qui s'y passe. Et cela nous permet de nous imprégner de sa quintessence, de nous imprégner et de manifester ses pouvoirs. Je crois vraiment, mes frères et sœurs, que dans les paroles de Jésus, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », on peut lire l'essentiel de la morale divine. Amen. Jésus, merci pour la sagesse que tu nous donnes. Merci de nous montrer là où nous en sommes et de nous aider à nous parfaire, à bien nettoyer cette lampe, afin que elle ne soit pas opaque et que le feu qui brûle dans cette lampe soit un feu, non pas un feu étranger, un feu de sentiments nauséabonds, mais un feu saint, le feu du Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus de nous aider à faire ta volonté, écrite et inspirée. Merci Seigneur Jésus, parce que ta volonté inspirée est toujours en accord avec ta volonté écrite. Je te prie Seigneur Jésus que tu continues à nous guider, à nous conduire, à nous aider et à tenir ferme dans cette décision que nous avons d'être tel que tu es. Aide-nous, aide-nous. Nous avons tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Que les musiciens s'approchent. Nous allons continuer notre culte en adorant le Seigneur de tout notre cœur.